Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Cette année a eu lieu la grande assemblée, et c'est la 9e assemblée générale d'ailleurs, de la Société des Amis des Haras Nationaux. J'ai voulu en savoir plus, c'est pourquoi je remercie François Dessart d'avoir accepté mon invitation. François Dessart, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Vous êtes le délégué général de cette Société des Amis des Haras Nationaux. Aussi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez tout d'abord ce qu'on appelle haras d'État et haras privés. En fait, c'est une longue histoire.
C'est une très longue histoire, effectivement, puisque les haras d'État ont été créés par Colbert, effectivement, à la demande de Louis XIV, même si avant Colbert, il y avait déjà des haras royaux. La différence entre les haras d'État et les haras privés, c'est d'une part, premier point, le terme haras n'est pas approprié pour les haras d'État. On devrait parler de dépôt d'étalon.
Et pourquoi ?
Parce qu'un haras, c'est le terme harem. Il doit donc y avoir effectivement des femelles,
voilà,
des
l'étymologie
juments. Ce qu'il n'y a pas effectivement dans les dépôts d'étalon. Par contre, les haras privés, qui sont des élevages, vous avez à la fois des étalons et des juments, ce sont donc bien des haras.
Ah, mais ça, c'est très important. Vous voyez comme l'étymologie, finalement, nous fait mieux comprendre les termes.
Oui, c'est assez curieux, d'ailleurs. Dans les haras d'État, il y en a qu'un, c'est le haras de Pompadour,
oui,
qui, effectivement, a une jumenterie, la jumenterie, oui, de la rivière, qui est d'ailleurs un site absolument extraordinaire.
Oui, moi, j'ai visité Pompadour, c'est
voilà,
très beau.
Et le site de Pompadour est fabuleux.
Magnifique.
Si vous avez pu faire le tour du château sur les Machicoulis, vous avez une vue, effectivement, sur le champ de course
super,
qui est extraordinaire,
ouais,
absolument.
Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de chevaux.
Alors, c'est tout le problème de l'avenir des haras d'État ou haras nationaux, effectivement.
Oui.
Le métier a changé. Le cheval pour l'agriculture et pour la guerre, pour lequel Colbert, effectivement, avait organisé ces haras, deviennent, j'allais dire, ça n'est plus le métier du cheval que l'agriculture et la guerre, ça devient le loisir. Donc il est clair que l'État n'a plus à investir directement dans ce genre de secteur. Ça n'est plus son rôle. Il a un rôle différent qui devient un rôle d'établissement public, d'institut professionnel, mais pas d'une ébé plus, j'allais dire, de promoteur, effectivement, ou de développement d'une race particulière ou d'une filière particulière.
Oui, en fait, maintenant, nous n'avons plus du tout la même stratégie qu'on pouvait avoir auparavant.
C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique dans la mesure où, effectivement, le monde a évolué. En 300 ans, le monde a évolué, même 400 ans, puisque le premier haras royal remonte à Louis XIII. Il était effectivement aux alentours de Saint-Léger, et non pas... Ce n'est pas le haras du pain, contrairement à ce que l'on pense généralement, mais c'est le haras de Saint-Léger, effectivement.
Et Saint-Léger...
Dans les Yvelines. Dans les Yvelines, dont il reste un morceau de porche, d'ailleurs. Il y avait un projet avec la Société des Amis et M. Guerlain, qui en était le président à l'époque, de le rénover, et puis, bon, comme beaucoup de projets de ce genre, on n'a pas réussi à le réaliser.
Alors peut-être on peut avoir l'histoire du haras du pain, parce que c'est quand même un lieu mythique, magique. On est allé écouter beaucoup de musique, puisqu'il y a eu des journées d'opéra. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu comment est né le haras du pain.
Alors le haras du pain... Et on est là dans un... Il faut d'abord dire que dans le monde du cheval, c'est un monde de passionnés.
Oui.
Un monde de passionnés, c'est automatiquement un monde de controverses, d'analyses différentes, de points de vue complémentaires ou opposés. Et donc, lorsqu'on raconte une histoire ou lorsqu'on prend un point de vue, il n'est pas toujours partagé par les autres. Donc, c'est une précaution de style que je prends.
Il ne faut pas avoir peur.
Avant de dire ce que je pense avoir vu ou ce que je pense avoir compris, effectivement, de cette filière, de ce monde et de l'histoire du haras du pain. Alors, effectivement, n'a pas été créé lors de la promulgation de l'édit, donc créant les haras royaux à l'époque,
oui,
en 1665, si mes souvenirs sont exacts, ou 66. 65. Grave, oui. 65, c'est-à-dire un an après la création de la bière Kronenbourg 1664.
Ah oui.
Et les mauvaises langues prétendent qu'il avait fallu attendre effectivement que M. Hatt crée ce produit pour que les employés des haras nationaux puissent effectivement consommer ce produit.
Bon. Ce sont les mauvaises langues.
Ce sont les très très mauvaises langues. Non, donc ce haras a été décidé dans les années 1700, pratiquement à la mort de roi Louis XIV, parce qu'effectivement la première organisation qui avait été mise en place avec des étalons appartenant à la maison du roi, c'est-à-dire au service des haras, est mis à disposition de gardes, qui étaient en général d'ailleurs des seigneurs ou des personnes importantes dans les régions, n'avaient pas eu le résultat souhaité. Et puis le centralisme louis XIVien, bien évidemment, poussait également une organisation plus directe.
Oui.
Donc le haras du pain, sa construction. Alors, les dates, peu importe, un an ou deux ans près, dans les années 1715, par Robert de Cotte, donc un architecte du roi, sur un domaine de... Alors, aujourd'hui, c'est à peu près 1100-1200 hectares. À l'époque, je ne me souviens plus très bien, la surface, ça n'a pas une importance majeure. Domaine vendu au roi par monsieur de Béchamel, de Nointel de Béchamel, celui dont le cuisinier a créé la fameuse sauce Béchamel, qui lui-même l'avait acheté peu de temps auparavant, sachant que le roi avait des intentions dans le coin. Donc les délits d'initiés déjà existaient à l'époque.
Mais ça, je crois qu'il y en avait beaucoup à cette époque.
Il y en avait beaucoup à cette époque. C'est un site fabuleux. Et quand on est au haras national du pain, effectivement, on comprend qu'il est d'essence royale. Il n'est pas fait pour le. Il n'était jamais été question que le roi y habite. Et ça a toujours été un outil de travail. Mais il n'empêche que quand on est dans la cour, effectivement, la cour d'honneur, qu'on regarde la forme des écuries, le château en fond, les collines derrière, on sent effectivement une certaine volonté. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et c'est un site, effectivement, d'essence royale. Donc ça permet de se recadrer un petit peu dans ce que pouvait être, effectivement, la France de l'époque et la représentation qu'on pourrait en avoir du pouvoir royal. C'est le seul haras qui a été construit pour cela. Tous les autres haras, finalement, ont été des modifications d'utilisation de bâtiments. Pompadour, effectivement, c'est le château de Pompadour, et un haras, mais il était lié à un château, à une propriété privée.
Oui, donc là, il n'y a pas de propriété privée.
Là, il n'y a pas de propriété privée, c'est effectivement un site complètement, destiné, effectivement, à être un dépôt d'étalons. Les autres sites qui ont été généralement organisés lors du Premier Empire, après les épisodes, effectivement, de suppression des haras, puis recréation par Napoléon Ier, sont généralement des adaptations de bâtiments et très souvent des anciens couvents ou autres qui avaient été vendus comme biens nationaux à la Révolution. Par exemple, à Rodez, vous avez les écuries, sont dans l'ancienne chapelle. Vous allez à Cluny, les bâtiments sont construits sur l'ancienne basilique. Et vous avez à l'intérieur, effectivement, d'une des écuries, dans la stalle numéro je ne sais plus laquelle, la tombe de Pierre le Vénérable. Ce ne sont pas les seuls sites. Beaucoup de sites, effectivement, ont été construits sur des biens repris, effectivement, dans le cadre des biens nationaux.
Ah oui, ça je ne savais.
Donc c'est une des caractéristiques, effectivement, du haras du pain, d'être le seul haras construit pour cela, par volonté du roi.
Alors comment était la vie dans un haras national ?
Alors c'est difficile, celle dont je connais mieux. Il faut se dire que ces haras, et surtout le haras du pain, c'était des villages.
Oui.
Au haras du pain, vous aviez, dans les années 1900, une centaine de salariés.
Oui.
Ça veut dire 400 personnes, à peu près, femmes, enfants, etc. Et ils servaient 300 étalons. Donc, ce qui est effectivement énorme. Ils s'occupaient du domaine. Donc, c'était vraiment un monde fermé, avec les salariés destinés à tous les travaux liés aux chevaux, les maréchaux ferrants.
Ils pouvaient habiter tous sur le site.
Alors certains, il y a une cité qui a été faite par Monsieur Dupont-Avis, donc la cité Dupont-Avis, effectivement. Et puis sinon, il y avait le village du Vieux Pin, et puis ils habitaient. Il y a effectivement sur le site du Pin pas mal d'habitations.
Et oui, ils sont encore. C'était quand même très important.
C'était très important. Donc vous aviez des activités liées effectivement au métier du cheval, des activités liées à l'entretien du domaine. Vous avez 20 km de canalisation pour le drainage, pour l'apport d'eau, enfin, etc.
Ah, oui.
Donc, c'était, vous aviez, ils vivaient en autarcie, les lavoirs, potagers, enfin, etc. Mmh. C'était une vie de village, très certainement, avec, bien évidemment, avec une structure
comme dans
féodale.
Comme dans tout domaine à cette époque.
C'est exactement les domaines de l'Ancien Régime.
Oui, c'est
tout
ça.
Tout à fait. Le même schéma que les domaines de l'Ancien Régime. Avec, alors, c'est ma vision, je ne dis pas que d'aucuns ne contesterait pas un peu cela, avec parfois des générations, c'est-à-dire que le fils remplaçait le père, enfin suivait le père, etc. Et vous avez dans Ouara du Pin des gens dont c'est la troisième génération, enfin, qui servent pour la troisième génération.
Encore là maintenant.
Alors encore maintenant, je ne le pense pas, mais c'était le cas il y a une dizaine oui. ou une quinzaine d'années. Tout
oui,
à
parce
fait.
Que ça a changé en fait en 10 ans.
Ça a énormément changé parce que le métier a changé. 300 étalons, qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc les stalles, tous les étalons étaient en stalles.
Oui.
Ils ont été mis en box, donc ça a permis d'avoir plus de place. Et puis maintenant, beaucoup d'écuries sont vides. Donc une partie, effectivement, du métier de reproduction qui était celui du haras du pin a été transférée à une coopérative, qui est installée d'ailleurs sur le pin, mais qui est effectivement une activité privée.
Mais c'est ça.
Donc le site est toujours occupé par ce métier, mais de manière totalement différente, bien sûr.
Et alors, il y a combien de personnes maintenant qui travaillent au pin?
Ça, c'est une question cruelle. Tout dépend comment on comptabilise, parce que vous avez l'activité liée au domaine. Donc 100 hectares, vous avez effectivement des personnes qui s'en occupent. Vous avez l'activité liée à l'école nationale professionnelle du pin, c'est-à-dire maintenant l'école supérieure d'équitation.
Ah, il y a une école.
Il y a une école, il reste une école. Il reste effectivement une jumenterie. Il reste des laboratoires.
Alors, L'INRA pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien, une jumenterie, expliquez.
Mais une jumenterie, c'est un endroit où vous avez un troupeau de juments, effectivement, qui servent à la reproduction ou à la recherche.
Oui.
Effectivement, la jumenterie, vous avez des travaux de recherche qui sont faits par le laboratoire de la jumenterie sur place au pin.
Alors, travaux de recherche, vous pouvez nous en dire plus?
C'est surtout tous les problèmes liés à la reproduction équine. C'est l'insémination, c'est la... comment est-ce qu'on a les transferts d'embryons, c'est toutes ces recherches qui ont pu être faites effectivement sur la reproduction et les haras ont été en flèche, si on peut dire, pendant une bonne époque, un bon moment.
Oui, parce qu'on a beaucoup exporté de chevaux.
Alors on a beaucoup exporté de chevaux. Oui, effectivement, on a beaucoup exporté de chevaux. Vous avez tout à fait raison. Alors est-ce que c'est lié à la, c'est indirectement lié aux activités effectivement des haras, mais c'est pas des chevaux issus des haras. Les haras ne font pas de poulains. Ils servent, si vous voulez, des éleveurs, mais ils n'ont pas d'élevage eux-mêmes, sauf toujours à Pompadour, il y a effectivement des élevages d'anglo-arabes.
Oui. Alors, on pensait que finalement, c'était l'armée qui avait le plus besoin des chevaux. Mais maintenant, effectivement, comment vous répartissez les chevaux? Il y a combien de chevaux au haras?
C'est une question cruelle, si, parce que dans la mesure où les sites, enfin les dépôts sont en cours de fermeture, il y a de moins en moins de chevaux, bien évidemment, enfin d'étalons, parlons pas de chevaux, mais parlons d'étalons. Il n'y a plus d'étalons faisant, j'allais dire, la monte pour le cas, j'allais dire, dans le cas de l'amélioration de races chevalines pour l'agriculture et pour la guerre. Il reste donc quelques étalons de sport et encore. Franchement, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup mal à répondre pour une raison simple. C'est que l'Institut, qui est maintenant l'Institut français du cheval et de l'équitation, est en pleine restructuration.
Oui, alors ça, c'est intéressant.
Alors,
justement.
Les sites ferment, ferment, sont vendus, intégrés avec, par les conseils départementaux dans le cadre de plateformes équestres avec des champs, des terrains de sport et autres. Donc là, on trouve une finalité, effectivement, lorsqu'il y a un projet global qui est fait. S'il n'y a pas de projet global, à ce moment-là, c'est le conseil départemental, s'il est acquéreur, qui en fera quelque chose. À Compiègne, il est question, effectivement, mais enfin ça depuis un certain temps, d'y créer un musée de la voiture équestre, la voiture hippomobile, pardon. On en parle depuis 10 ou 15 ans, ce sera un complément du château.
Oui, parce qu'il y a des voitures magnifiques au Haras du Pin.
Alors, là, c'est pareil. Il y a au niveau de l'ensemble, vous avez une collection d'à peu près 300 voitures.
Oui, c'est
donc, aux haras nationaux. Ce sont des voitures de fonction. Ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des carrosses.
Non.
Ce sont des utilitaires spécifiques pour certaines des haras nationaux, type les squelettes, qui sont des voitures qui servaient à dresser les jeunes étalons.
Et pourquoi ça s'appelait comme ça?
Parce que c'est uniquement l'armature.
Ah,
vous n'avez uniquement les quatre roues, et puis une flèche au milieu, et puis vous atteliez, on attelait les deux, un vieil étalon dressé et un jeune l'un à côté de l'autre, Et puis Hardy Petit, il fallait que le jeune se soumette, sinon ça se passait mal. Et donc c'est des voitures assez lourdes, peu maniables, mais c'est une carcasse, tout bêtement une carcasse.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec François Dessart et nous avons évoqué le haras du pain, les chevaux, et j'aimerais bien que nous en arrivions à l'avenir du patrimoine, parce que c'est la question que l'on peut se poser en vous entendant.
C'est effectivement la grande question, parce que le patrimoine des haras, c'est deux classes d'éléments. Un patrimoine immobilier, effectivement, qui n'est plus adapté au monde moderne de la production équestre ou équine, plus exactement, et de toute façon dans lequel le monde a changé, et puis un patrimoine mobilier et un patrimoine culturel. Mobilier, c'est environ 300 voitures, de qualité très variable, généralement des voitures de service, puisque les haras nationaux, enfin les haras, alors qu'ils aient été royaux, impériaux ou nationaux, n'avaient pas de fonction mondaine, pour employer une formule, donc c'était des voitures utilitaires. Les squelettes dont on a parlé tout à l'heure, qui servaient à dresser les chevaux, mais également des charrettes anglaises, des road coach, enfin un certain nombre de voitures, qui étaient utilisées pour le service du haras. Ça représente quand même un patrimoine intéressant parce que c'est spécifique généralement de cet établissement et donc on devrait pouvoir en refaire des présentations particulières. D'autant plus que les haras avaient développé une culture d'attelage et disposent effectivement d'une compétence spécifique dans ce domaine. Et c'est pas si facile de manier un attelage à quatre percherons, par exemple. Il faut tenir les guides et puis savoir les tenir, et etc.
Beaucoup de concours d'attelage dans le Perche.
Alors, effectivement,
c'est très intéressant.
C'est un des éléments, c'est que les concours d'attelage ont été recréés par Monsieur Charpie au haras du Pin. Il doit y avoir maintenant une bonne quarantaine d'années, à peu près.
Oui, ça c'est très bien.
Et c'est un succès remarquable, avec effectivement un développement dans différents sites de ce type de manifestation qui a toujours énormément de succès.
Oui, beaucoup d'étrangers participent.
Effectivement, et c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est très sportif.
C'est sportif et c'est très élégant, puisque les concours d'attelage de tradition, les voitures sont des voitures d'époque, présentées selon les critères de l'époque, avec l'élégance de l'époque. Et c'est assez chouette de voir dans la cour du haras, effectivement, défiler les voitures les unes après les autres.
Oui.
Donc ça, c'est un élément du patrimoine qui reste vivant parce qu'effectivement, il y a une culture autour que l'on maintient vivante.
Mais ça, c'est très, très important.
Vous avez d'autres éléments de culture, bon, c'est tout ce qui est harnachement et autres, vous avez des jolies choses, effectivement, et puis qui sont très liés d'ailleurs à l'attelage, bien évidemment, et puis un certain nombre d'objets plus ou moins de grande valeur, qui étaient des objets de métier, donc qui n'a...
À savoir
tout ce qui est... Puisque les haras étaient équipés en céleri, donc ils avaient tout le matériel nécessaire... En sellerie-bourrellerie, deux choses. En maréchalerie, ils avaient tout le matériel nécessaire. Ils entretenaient les immeubles, donc il y avait une menuiserie, donc avec des outils qui avaient 100 ans, 150 ans, enfin tout un équipement, effectivement. Mais c'était des outils de travail, c'était pas des outils de culture. Donc on leur a peut-être pas attaché l'importance qu'ils auraient pu avoir, que maintenant on leur attacherait au jour d'aujourd'hui, et beaucoup ont disparu. Donc c'est un petit peu le côté dommage de voir effectivement ces pertes en ligne qu'il y a pu y avoir sur ces sites qui, pour certains, n'avaient pas beaucoup bougé depuis 200 ans.
Oui, c'est un véritable musée.
Ce sont des véritables musées. On ne peut pas avoir 18 musées
du monde des castes. Donc vous pouvez regrouper.
Il faut donc regrouper, avoir une politique effectivement de regroupement et puis de valorisation effectivement de certains sites, type le haras du Pin, type le haras du Zest, type le haras de Cluny, dans la mesure effectivement, ils sont inscrits dans un environnement du monde équestre, donc avec des concours, avec une vie, effectivement, complémentaire à celle qui était le métier initial, de la formation, effectivement, de l'accueil de compétition, effectivement, et puis de la, j'allais dire, et un petit peu, bien évidemment, de l'aspect reproduction. C'est comme ça que ces sites peuvent vivre. Je ne suis pas sûr qu'effectivement ça leur permette de maintenir leur patrimoine, effectivement l'État, d'où l'idée que nous avions eue de créer la Société des Amis des Arts Nationaux, pour effectivement apporter du mécénat permettant de, enfin, faire intervenir des mécènes pour la sauvegarde de ce patrimoine.
Oui, c'est pourquoi vous avez créé, cette, vous-même, vous êtes délégué de cette société.
Absolument, c'est moi, enfin j'allais dire...
Depuis combien de temps vous...
Elle a été créée en 2008, en décembre 2008, sous la présidence de M. Jean-Paul Guerlain, effectivement, donc, qui est un voisin du Haras du Pin, qui s'intéressait beaucoup effectivement à ce haras, et qui donc a accepté très gentiment de devenir président de cette association. Et grâce à son, cette personnalité connue et reconnue à juste titre, on a pu créer un noyau effectivement de membres fondateurs, et à partir de là, développer une politique de développement, de financement d'implantation, enfin de financement de projet plus exactement. Le premier étant, et c'est d'ailleurs le Haras du Pin, parce que nous avions sur place, nous avons eu sur place un accueil favorable du directeur du site de l'époque, Franck Lemestre, et puis surtout de la personne qui connaît remarquablement le site et qu'on est là, j'allais dire, la mémoire vivante, Taguine Sainte-Marie.
Ah oui.
Donc grâce à ces deux personnes, nous avons pu effectivement se bâtir des projets. Les Jeux Équestres Mondiaux nous ont d'ailleurs considérablement aidés, bien évidemment. Mmh. Et grâce à ça, on a pu créer d'abord un réseau d'adhérents.
Le socle d'adhérents. Combien
Moi, j'ai un il y a un fichier d'environ 250 adresses de membres, avec une à peu près une centaine... 100 et 120, si vous voulez, nos membres ont pour une formule vivant, puisque grosso modo, le turnover, c'est... Les gens adhèrent en moyenne 4 à 5 ans.
4 à 5 ans.
Ce qui nécessite un très gros travail, effectivement, de, j'allais dire, de développement des adhésions pour garder un socle suffisant pour être crédible vis-à-vis du bénéficiaire, d'une part, et vis-à-vis des mécènes, d'autre part, puisque c'est les adhésions... C'est la communication, mais les fonds, ils viennent des mécènes.
Oui. J'espère que des mécènes nous écoutent.
Ah bah ce sera avec... j'espère
voilà,
beaucoup.
Voilà, oui.
On a réussi à bâtir quand même deux cercles de mécènes. Un sur le Haras du Pin, où il y a 11 mécènes, 11 entreprises mécènes. Et à Uzès, où nous en avons 5. Ce qui nous a permis à Uzès de remettre en état complètement un bâtiment, un ancien paillé.
C'est-à-dire qu'Uzès, c'est magnifique et il fait beau en plus.
C'est un site ravissant. Ouais. Avec une partie très ancienne, puisqu'elle remonte à 10... ça s'appelait à l'époque le mât des tailles, et il est sur le compois d'Uzès de 1500 et quelques. Donc le site est très ancien.
Et la ville est très ancienne.
La ville est superbe.
Magnifique.
Superbe. Ouais. Et le haras s'y intègre, j'allais dire, parfaitement bien dans la culture et dans les circuits. Donc là, on a fait quelque chose de sympa, parce qu'on a retapé un bâtiment, d'une part, avec du mécénat financier, et avec du mécénat de compétences. Et ça nous a permis également de développer des opérations de remise en état de voitures dans le cadre de l'apprentissage et autres, puisque notre théorie, enfin la mienne en tout cas, c'est que le patrimoine ne peut durer que s'il reste vivant, c'est-à-dire s'il est utile, s'il est utile à quelque chose. Donc il doit s'inscrire dans une vie économique. S'il ne s'inscrit pas dans une vie économique, il est condamné à disparaître.
Oui.
Donc sur Uzès, ça fonctionne parfaitement. Et sur le Pin, on a fait de très belles opérations. On a rénové la grille d'honneur, on a rénové les ferrures du perron, on a retapé, participé à la rénovation de deux remises à voitures, financé totalement ou partiellement la rénovation de 5 voitures. Et surtout, on a fait ça d'une part par du mécénat financier, mais également dans des cas de chantier d'insertion. Parce que toujours la même chose, le patrimoine. On a fait travailler le Greta, c'est grâce à Tanguy. On a fait travailler le Greta d'Argentan sur un projet absolument extraordinaire qui est le Lavoir, le site du Lavoir, un petit coin tout à fait discret, heureusement. Ce qui fait que sur le plan administratif, on était moins gênés. Et ça nous a permis de retaper cet ensemble pour à peu près le 1/10 du budget officiel.
Ah oui, ça s'est terminé.
Alors, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans pour le faire, mais dans le cadre de chantier d'insertion. Et le travail final, quand vous viendrez visiter le Pin, vous pourrez le voir, c'est un petit bijou. Et on peut continuer le.
Donc, chers auditeurs, venez au Pin. Vous allez d'abord être éblouis parce que c'est un très beau site. Et puis, alors, il y a ces nouveautés, donc ce très beau lavoir qui a été donc restauré.
Absolument, absolument. Il a été complètement. Il disparaissait sous le lierre, ce qui l'a sauvé d'ailleurs. Mmh. Et maintenant, il est. Et vraiment, l'ensemble avec. Ce qu'on appelle l'étang de la centrale, je crois, qui est juste à côté. Enfin, il fait partie d'un circuit hydraulique, c'est assez intéressant. Et juste en dessous du potager des officiers, qui est l'ancien potager des officiers, qui fait l'objet maintenant du prochain projet d'insertion avec le Greta. Et ça, j'aimerais beaucoup le mener, parce que dès ce petit projet d'un potager, il y a tout un aspect filière également, ouais, qui est tout à fait intéressant.
Et puis ça, enfin, les gens aiment beaucoup finalement tout ce qui concerne le potager.
Absolument.
Mais alors, moi, je voudrais aussi que vous évoquiez ce qui est vraiment très bien parce que ça a été fait par des élèves et c'est une nouvelle façon d'aider les handicapés.
Absolument. Alors ça, l'expérience est tout à fait intéressante. C'était l'idée, alors ce qu'on cherchait au niveau des membres fondateurs, comment faire vivre cette association et l'inscrire effectivement dans la culture de demain. Sinon ça meurt. Et l'idée a été soufflée de lancer le concours Imaginez la voiture hippomobile du 21e siècle.
À des jeunes.
Enfin, à qui voulait. Et la première année, je ne savais absolument pas quel en serait le résultat. La première année, nous avons eu une bonne trentaine de concurrents, dont une personne qui a sorti un projet totalement farfelu pour des spécialistes compétents en matière d'attelage. Mm-hmm. Mais l'idée était tout à fait intéressante puisqu'elle ouvrait effectivement la possibilité d'atteler, le terme sera refusé bien évidemment par les techniciens, mais pour des personnes handicapées.
Ouais, ça, c'est...
Et ça, l'idée était extraordinaire.
Ah, oui.
Donc à partir de là, bon, ça a pris un certain temps, mais l'idée a mûri. D'une part, l'idée a mûri, un groupe de travail s'est constitué, et un groupe de travail qui, justement, a abouti, parce que dans ce groupe, on a fait venir les spécialistes les uns après les autres, et non pas ensemble.
Ça, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux.
On a des idées
personnelles. Aucune des personnes. Donc, chaque fois qu'on posait un problème, on allait voir le suivant qui nous résolvait ce problème. Et deuxième point, personne ne voulait prendre la tête du projet. C'est-à-dire que tout le monde était à égalité.
Ah, oui.
Et effectivement, l'objectif était réaliser un prototype sans que, l'important soit d'être le premier sur la photo du prototype.
Ça, c'était très bien.
Donc en juillet 2015, on a présenté ce prototype au Haras du Pin, avec notamment dans la balancelle, parce que c'est une adaptation finalement très différente du projet initial, mais c'est une adaptation du cacolet.
Alors, faut nous expliquer ça.
Alors, le cacolet était c'est un double siège, un siège qui est fixé, qui est posé sur le dos du cheval, donc une personne de chaque côté, et qui servait notamment dans l'armée, ça a servi jusqu'en 1914, à ma connaissance, pour emmener les blessés.
Ah,
et
oui.
Ça servait également, ça servait un peu aussi dans les années 1830, il y a des gravures amusantes, si vous voulez, pour promener les fiancés, puisqu'ils étaient quand même séparés par le dos du cheval.
Donc là, il y aurait deux personnes handicapées qui seraient sur le dos d'un cheval.
Par exemple, ou à trouver un système qui permette d'équilibrer, etc. Donc, effectivement, sur le plan technique, quand on s'y imagine, on se dit c'est impossible. Il n'empêche qu'en juillet 2015, Monsieur Doublier, qui est un cavalier de grand talent et patron responsable d'un club hippique qui a eu un accident très grave et qui est tétraplégique, a pu être effectivement faire le tour de la cour d'honneur du Haras du Pin sur ce cacolet. Il a dit qu'il retrouvait avec plaisir les sensations qu'il avait à cheval.
Ah, c'est merveilleux.
Donc c'est un outil extraordinaire et le résultat finalement d'un travail qui exprime assez bien l'esprit de la Société des Amis des Rats Nationaux.
Et ça, ce sera le Side Horse.
Et ça, c'est le Side Horse.
C'est le Side Horse.
Absolument.
Eh bien, écoutez, un grand merci parce que nous terminons sur une note vraiment d'optimisme et de gaieté, puisque vous évoquez ce Side Horse qui permettra aux gens qui ne peuvent plus aller à cheval de recommencer à être près de leur cheval. Et ça, c'est très important, je crois. Un grand merci à vous. Vous avez fort bien évoqué tous ces haras. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Merci François de Sarre.
Merci beaucoup Christine Blanc.